Chapitre 13e. 2 mois s'étaient écoulés depuis la mort de Madame de Beauménil. Une grande activité régnait dans la maison de Monsieur le baron de la Rochegue, nommé tuteur d'Ernestine de Beauménil, par un conseil de famille convoqué peu de temps après la mort de la comtesse. Transportant et plaçant des meubles, les domestiques de Monsieur de la Rochegue allaient et venaient, surveillés et dirigés par sa femme et par lui, ainsi que par sa sœur, Mademoiselle Héléna de la Rochegue, fille de 45 ans environ, toute de noir vêtue, ses yeux toujours baissés, sa figure pâle et maigre, sa physionomie timide, son allure discrète et le sévère arrangement de sa coiffe blanche, lui donnaient l'aspect d'une sorte de religieuse, quoique Mademoiselle Héléna n'eût prononcé aucun vœu monastique. Monsieur de la Rochegue, grand homme sec, de 50 à 60 ans, avait le front chauve et fuyant, le nez busqué, le menton rentrant, l'œil bleu faillant sa fleur de tête. Il souriait presque toujours, décrivant ainsi des dents très blanches mais trop longues, qui achevaient de donner à sa figure un caractère très analogue à celui de la race ovine. Le baron avait d'ailleurs les formes excellentes, tandis que par son maintien et jusque par la coupe de son habit, toujours soigneusement boutonné à la hauteur de sa cravate blanche et de son jabot, il s'évertuait à se transformer en une copie vivante du portrait de Canning, le type parfait de l'homme d'état gentleman, disait le baron. Monsieur de la Rochegue n'était pourtant pas homme d'état, mais depuis longtemps il espérait le devenir. En un mot, l'ambition de la pairie était tournée chez ce personnage, président d'un conseil général, à l'état de manie, d'idées fixes, de maladies chroniques et dévorantes. Se croyant un Canning inconnu et ne pouvant se produire à la tribune de la chambre haute, il saisissait la moindre occasion de prononcer un speech, prenant ainsi le ton et l'attitude parlementaire à propos des sujets les plus insignifiants. Un des traits saillants de la manière oratoire du baron était une redondance d'épithètes ou d'adverbes qui devait, selon lui, tripler l'effet de ses plus belles pensées. Et pour employer la phraséologie du baron, nous dirons que rien n'était d'ailleurs plus insignifiant, plus terne, plus vide, que ce qu'il appelait sa pensée. Madame de la Rochegue, âgée de 45 ans, avait été jolie, coquette et fort galante. Sa taille était encore svelte, mais la recherche élégante et trop juvénile de sa toilette contrastait toujours maladroitement avec la maturité de son âge. La baronne aimait passionnément les plaisirs, le grand luxe, les fêtes magnifiques, et surtout à les diriger, à les présider en souveraine. Malheureusement, ses revenus, bien qu'honorables, n'étaient nullement en rapport avec ses goûts d'énormes dépenses. D'ailleurs, elle se fût bien gardée de se ruiner. Aussi trouvait-elle, en femme habile et économe, le moyen de jouir de la haute influence que donne une grande existence en se faisant à l'occasion la patronesse de ces étrangers obscurs, mais colossalement riche, météore splendide, qui, après avoir brillé durant quelques années à Paris, disparaissent à jamais dans le néant de la ruine et de l'oubli. Madame de la Rochegue se chargeait donc, ainsi qu'on dit en argot de bonne compagnie, de faire un monde à ces inconnus. En un mot, elle leur imposait la liste des gens qu'ils devaient exclusivement recevoir, ne leur accordant pas même quelques invitations pour ceux de leurs amis ou de leurs compatriotes, qu'elle ne jugeait pas digne de figurer parmi la fine fleur de l'aristocratie parisienne. La baronne, appartenant à la meilleure compagnie, lançait ses clients dans le plus grand monde jusqu'au jour prévu de la ruine de ces étrangers. Madame de la Rochegue restait donc en réalité la maîtresse de leur maison. Seule, elle dirigeait, ordonnait les fêtes. À elle seule, enfin, on s'adressait pour être portée sur la liste des élus appelés à ces somptueuses et élégantes réunions. Il va sans dire qu'elle faisait sentir à ses clients l'indispensable nécessité d'une loge à l'opéra et aux Italiens, où la meilleure place lui était réservée. Il en était de même pour les courses de chantilly ou pour quelques excursions au bain de mer. Les clients y louaient une maison, y envoyaient cuisiniers, gens, chevaux, voitures, et là, Madame de la Rochegue tenait ainsi table ouverte pour ses amis, le tout au nom du ménage. Il y a dans le monde, et dans le plus grand monde, une telle et si basse avidité de plaisir, que loin de se révolter de voir une femme de haute naissance se livrer à l'indigne exploitation de ces malheureux, qu'une folle vanité conduisait à leur ruine, ce monde flattait, adulait Madame de La Rochegue, suprême dispensatrice de ces fêtes splendides, et qu'elle-même se targuait effrontément de tous les avantages qu'elle devait à son patronage intéressé. Du reste, spirituelle, rusée, insinuante, et partant très comptée, Madame de La Rochegue était une des 7 ou 8 femmes qui ont une véritable influence sur ce qu'on appelle le monde à Paris. Les 3 personnes dont nous parlons présidaient aux derniers arrangements d'un grand appartement restauré, doré et meublé à neuf avec un luxe inouï, occupant tout le premier étage d'un hôtel situé dans le faubourg Saint-Germain. Monsieur et Madame de La Rochegue quittaient ce logement pour aller s'établir au second, dont une partie était habitée par Mademoiselle de La Rochegue, et l'autre avait jusqu'alors servi à loger le gendre et la fille de Monsieur de La Rochegue, lorsqu'ils venaient de leur terre, où ils résidaient ordinairement, passés 2 ou 3 mois à Paris. Naguère presque délabré et meublé avec une extrême parcimonie, ce vaste appartement alors si splendide était destiné à Mademoiselle Ernestine de Beauménil. Sa santé, suffisamment rétablie, lui permettait de revenir en France. Elle devait arriver le jour même d'Italie, accompagnée de sa gouvernante et d'un intendant ou homme d'affaires que M. de La Rochegue avait envoyé à Naples pour y chercher l'orpheline. Il est impossible d'imaginer les soins minutieux que le baron, sa sœur et sa femme apportaient à l'arrangement des pièces destinées à Mademoiselle de Beauménil. Les moindres circonstances révélaient l'empressement, l'obséquiosité exagérée, pour ne rien dire de plus, avec lesquelles Mademoiselle de Beauménil était attendue. Il y avait même quelque chose d'insolite et presque d'attristant dans l'aspect de tant de somptueuses et vastes pièces consacrée à l'habitation de cet enfant de 16 ans, qui semblait devoir se perdre dans ses appartements immenses. Après un dernier coup d'œil jeté sur ses préparatifs, M. de La Rochegue assembla ses gens, et saisissant cette belle occasion de prononcer un speech, prononça ses mémorables paroles avec sa majesté habituelle. « Je rassemble ici mes gens, pour leur apprendre, leur déclarer, leur signifier que Mademoiselle de Beauménil, ma cousine et pupille, doit arriver ce soir. Madame de La Rochegue et moi, nous entendons, nous désirons, nous voulons que nos gens soient aux ordres de Mademoiselle de Beauménil avant que d'être aux nôtres, c'est-à-dire à nos gens qu'à tout ce que leur dira, leur ordonnera, leur commandera Mademoiselle de Beauménil. Ils doivent obéir aveuglément et comme si ces ordres leur étaient donnés par Madame de La Rochegue ou par moi. Je compte sur le zèle, sur l'intelligence, sur l'exactitude de mes gens. Nous saurons reconnaître ceux qui se seront montrés remplis de bon vouloir, de soins, de prévenance pour Mademoiselle de Beauménil. » Après cette belle allocution, les gens furent congédiés et l'on donna ordre aux cuisines de tenir continuellement et toute prête une réfection chaude et froide dans le cas où Mademoiselle de Beauménil voudrait prendre quelque chose en arrivant. Ces préparatifs terminés, Madame de La Rochegue dit à son mari et à sa sœur « Nous devrions maintenant monter là-haut pour bien nous recorder et convenir de nos faits. J'allais vous le proposer, ma chère, » dit Monsieur de La Rochegue en souriant et montrant ses longues dents de l'air le plus courtois. Ces 3 personnages traversaient un des salons pour sortir de l'appartement lorsqu'un des gens de Monsieur de La Rochegue lui dit « Il y a là une demoiselle qui demande à parler à Madame la Baronne. Qu'est-ce que c'est que cette demoiselle ?» « Elle ne m'a pas dit son nom. Elle vient pour quelque chose qui a rapport à feu Madame la Comtesse de Beauménil. « Faites entrer, » dit la baronne, puis s'adressant à son mari et à sa belle-sœur. « Qu'est-ce que ça peut être que cette demoiselle ?»« Je n'en sais rien, nous allons voir, » dit le baron d'un air méditatif. « Quelques réclamations, peut-être ?» ajouta Madame de La Rochegue. « Il faudra envoyer cela au notaire de la succession. » Bientôt, le domestique ouvrit la porte et annonça « Mademoiselle Herminie ». Quoique toujours charmant, le joli visage de la duchesse, pâli, altéré par la douleur profonde que lui causait la mort de sa mère, révélait une tristesse difficilement contenue. Ses beaux cheveux blonds, ordinairement déroulés en longues anglaises, se réunissaient alors en bandeau autour de son noble front, car la pauvre enfant, abîmée dans son amer chagrin, n'avait pas depuis 2 mois un instant songé aux innocentes coquetteries de son âge. Enfin, puéril, mais significatif et navrant détail, les blanches et belles mains d'Herminie étaient nues. Ces pauvres petits vieux gants, si souvent, si industrieusement recousus par elle, n'étaient plus mettables, et sa misère croissante ne lui permettait pas d'en acheter d'autres. Hélas, oui, sa misère, car frappée au cœur par la mort de sa mère, et cruellement malade pendant 6 semaines, la jeune fille n'avait pu donner ses leçons de musique, sa seule ressource. Ses minces épargnes étaient absorbées par les frais de sa maladie. Aussi, en attendant le produit des leçons qu'elle recommençait depuis peu de jours, Herminie s'était vue obligée de mettre au monte-piété un couvert d'argent, acheté au temps de sa richesse. Et du modique produit de cet emprunt, elle vivait alors, avec une parcimonie que le malheur seul peut enseigner. À l'aspect de cette pâle et belle jeune fille dont les vêtements, malgré leur minutieuse propreté, annonçaient une misère décente, le baron et sa femme se regardèrent fort surpris. Madame de la Rochegue dit à Herminie « Je suis Madame de la Rochegue, mademoiselle, qu'a-t-il pour votre service ?»« Madame, » dit Herminie en rougissant d'orgueil, « je viens réparer une erreur, involontaire sans doute, et vous rapporter ce billet de 500 francs qui m'était envoyé ce matin par le notaire de feu Madame la Comtesse de Beauménil. » Malgré son courage, Herminie sentit les larmes lui monter aux yeux en prononçant le nom de sa mère. Mais faisant un vaillant effort sur elle-même, afin de vaincre son émotion, elle tendit à Madame de la Rochegue le billet de banque, plié dans une lettre à son adresse, où on lisait « À Mademoiselle Herminie, maîtresse de chant ». Madame de la Rochegue, ayant parcouru la lettre, répondit « Ah, pardon, c'est vous, mademoiselle, qui aviez été appelée auprès de Madame de Beauménil comme musicienne ?»« Oui, madame. » »« Je me souviens qu'en effet, le conseil de famille a décidé que l'on vous enverrait 500 francs pour vos honoraires. On a cru que cette somme... »« Suffisante, convenable, acceptable, » ajouta sentencieusement le baron en interrompant sa femme qui reprit « Nous ne croyons pas, mademoiselle, que vous veniez ici réclamer. »« Je viens, madame, » dit Herminie avec un accent rempli de douceur et d'orgueil. « Je viens vous rendre cet argent. J'ai été payé. » Aucun des acteurs de cette scène ne sentit, ne pouvait sentir ce qu'il y avait de douleur amère dans ces mots « j'ai été payé ». Mais la dignité, le désintéressement d'Herminie, désintéressement que la pauvreté si apparente des vêtements de la jeune fille rendait plus remarquable encore, frappèrent surtout Madame de la Rochegue qui reprit « En vérité, mademoiselle, je ne puis que louer la délicatesse d'un pareil procédé. La famille ignorait que vous eussiez déjà été rémunérée. Mais, ajouta la baronne en hésitant, car le grand air naturel d'Herminie lui imposait, « Mais je crois pouvoir, au nom de la famille, vous prier de conserver ces 500 francs comme une gratification. » Et la baronne tendit le billet de banque à la jeune fille en jetant de nouveau un regard sur ses pauvres vêtements. Une seconde fois, la noble rougeur de l'orgueil blessé monta au front d'Herminie. Il est impossible d'exprimer avec quelle convenance parfaite, avec quelle simplicité fière, la jeune fille répondit à Madame de la Rochegue. « Veuillez, madame, réserver cette généreuse aumône pour les personnes qui s'adresseront à votre charité. » Puis, sans ajouter un mot, Herminie salua Madame de la Rochegue et se dirigea vers la porte du salon. « Mademoiselle, pardon, » dit vivement la baronne, « un mot encore, un seul. » La jeune fille se retourna, sans pouvoir cacher ses larmes d'humiliation péniblement contenues jusqu'alors, et dit à Madame de la Rochegue, qui semblait frappée d'une idée subite, « Que désirez-vous, madame ?» Je vous prie d'abord, mademoiselle, d'excuser une insistance qui a pu froisser votre délicatesse et vous faire croire, peut-être, que j'ai voulu vous humilier. Mais je vous proteste que... Je ne crois jamais, madame, que l'on veuille m'humilier, répondit Herminie d'une voix douce et ferme, sans laisser Madame de la Rochegue achever sa phrase. Et vous avez raison, mademoiselle, reprit la baronne. C'est un sentiment au contraire que vous devez inspirer. Maintenant... « J'ai un service, je dirais même une grâce à vous demander. »« À moi, madame. »« Vous continuez à donner des leçons de piano, mademoiselle. »« Oui, madame. » Monsieur de la Rochegue, et il désigna le baron qui souriait comme d'habitude, « est le tuteur de mademoiselle de Beauménil. Elle doit arriver ici ce soir. »« Mademoiselle de Beauménil, » dit vivement Herminie avec un tressaillement et une émotion involontaire, « elle arrive ici, aujourd'hui. » « Ainsi que Madame la Baronne a eu l'honneur de vous le dire. Nous attendons ce soir mademoiselle de Beauménil, ma bien-aimée cousine et pupille, reprit le baron. Cet appartement lui est destiné, ajouta-t-il en jetant un regard complaisant autour du magnifique salon, un appartement digne en tout de la plus riche héritière de France, car rien n'est trop... La baronne interrompit son mari et dit à Herminie, « Mademoiselle de Beauménil a 16 ans. Son éducation n'est pas complètement achevée. Elle aura besoin de plusieurs professeurs. S'il pouvait donc vous convenir, mademoiselle, de donner des leçons de musique à mademoiselle de Beauménil, nous serions charmés de vous la confier. » Quoique, peu à peu, elle eût pressenti l'offre que venait de lui faire la baronne. Herminie a cette pensée qu'un hasard providentiel allait la rapprocher de sa sœur. Herminie fut si impressionnée qu'elle se fut sans doute trahie. Si le baron, jaloux de saisir cette nouvelle occasion de poser en orateur, et ne donnant pas à la jeune fille le temps de répondre, n'eût ajouté en mettant, selon son habitude, sa main gauche entre les revers de son habit boutonné, tandis qu'il imprimait à son bras droit un mouvement de pendule des plus insupportables. Mademoiselle, si pour nous c'est un devoir sacré de veiller scrupuleusement, rigoureusement, prudemment, au choix des maîtres auxquels nous confions notre chère pupille, c'est aussi pour nous un plaisir, un bonheur, une satisfaction de rencontrer des personnes qui, comme vous, mademoiselle, réunissent toutes les conditions désirables pour remplir l'emploi auquel elles se sont vouées, dans l'intérêt sacré de l'éducation et des familles. Ce speech, prononcé tout d'un trait et tout d'une haleine par le baron, toujours avide de s'exercer aux luttes de la parole, dans la prévision de cette pairie si ardemment désirée, cette tirade, disons-nous, donna heureusement à Herminie le temps de reprendre son sang-froid. Elle répondit à la baronne d'une voix presque calme. « Je suis touchée, madame, de la confiance que vous m'accordez. J'espère vous montrer que j'en étais digne. »« Eh bien donc, mademoiselle, » reprit madame de la Roche-Aiguë, « puisque vous acceptez mes offres, nous vous ferons prévenir dès que mademoiselle de Beauménil sera en état de prendre ses premières leçons, car pendant quelques jours, il lui faudra sans doute se reposer des fatigues de son voyage. J'attendrai donc que vous veuillez bien m'écrire, madame, pour me présenter chez mademoiselle de Beauménil, » dit Herminie en quittant le salon. Avec quel attendrissement, avec quelle joie, la jeune fille regagna sa modeste demeure. Elle pouvait espérer de revoir sa sœur, de la voir souvent, car elle comptait sur toutes les ressources de sa tendresse cachée pour se faire aimer d'Ernestine. Sans doute, et pour de toutes puissantes raisons puisées dans ce qu'il y a de plus pur dans le respect filial, dans ce qu'il y a de plus délicat, de plus élevé dans le noble sentiment de l'orgueil, Herminie devait à jamais taire à sa sœur le lien secret qui les unissait, ainsi qu'elle avait eu le courage de le taire à madame de Beauménil. Mais la perspective de ce rapprochement, peut-être prochain, jetait la jeune artiste dans un ravissement ineffable, lui apportait la plus inespérée des consolations. Puis sa sagacité naturelle, jointe à un vague instinct de défiance envers monsieur et madame de la Roche-Aiguë, qu'elle voyait cependant pour la première fois, disait à Herminie que cet enfant de 16 ans, que cette sœur qu'elle chérissait sans la connaître, aurait pu être confiée à des personnes plus dignes de sa tutelle. Si ses prévisions ne la trompaient pas, l'affection qu'Herminie espérait insinuer à sa sœur pourrait donc avoir sur celle-ci une influence doublement salutaire. Est-il besoin de dire que malgré la gêne, la pénurie extrême où elle se trouvait, il ne vint pas un moment à la pensée d'Herminie de comparer l'opulence presque fabuleuse dont allait jouir sa sœur à sa condition à elle, pauvre artiste, exposée à tous les hasards de la maladie et de la pauvreté. Les caractères généreux et fiers ont des rayonnements si chaleureux qu'ils fondent parfois les glaces de l'égoïsme. Ainsi, dans la scène précédente, la dignité d'Herminie, la grâce exquise et naturelle de ses manières, avaient inspiré tant d'intérêt, imposé tant de considération à monsieur et madame de la Roche-Aiguë, personnage cependant peu sympathique, qu'il s'était empressé de faire à la jeune fille l'offre dont elle se trouvait si heureuse. La baronne, le baron et sa sœur restés seuls après le départ d'Herminie, se retirèrent chez eux afin d'avoir une conférence importante au sujet de la prochaine arrivée d'Ernestine de Beauménil.